RMC.
Here is the commissioner of the NBA, Adam Silver.
With the first pick in the 2023 NBA draft, the San Antonio Spurs select Victor Wembanyama.
Basket time.
C'est que la draft, c'est qu'un début, c'est pas du tout un aboutissement.
Kylian Vérove.
Déjà inscrit en 2024 avant de finalement retirer son nom, il est cette année le premier Français à avoir officialisé son inscription à la prochaine draft NBA. Celui qui a préféré décliner les offres alléchantes de clubs comme Monaco ou le Real Madrid pour évoluer au Mans va peut-être être récompensé. Le 25 juin, il pourrait bien rejoindre une franchise NBA. On parle là de Noah Penda.
Strong take for Penda. Catches it and goes up for the rim rocker. The flush.
Oh my. Oh my. Razzle dazzle from Noah Penda.
France kind of resorting to, oh, nice play, Penda. That's much better. Facing the adversity, looking for his A game. Penda comes out and makes a couple of huge plays. Uh-oh, Penda, he's had a tough game. He's going to have to launch it. He puts it up. Oh my goodness. You cannot be serious. He saved the best for last. Penda could not throw the ball in the ocean and he has just knocked out Spain at the buzzer.
Noah Penda, pour en parler avec moi, toujours le chef de la cellule basket de RMC, Félix Gabory, et Thomas Breton du Média Envergure qui a rempilé encore une fois pour un épisode. Salut messieurs.
Salut Kylian, salut tout le monde. Salut Thomas.
Salut Kylian, salut Félix. Bonjour à tous, ravi d'être là encore aujourd'hui.
Vous allez bien? Troisième prospect, on enchaîne après Nolan Traoré et Maxime Reynaud. Encore un beau bébé, on y va.
Ouais, ça va très bien. Très bon choix de musique hein, sur
Penda,
Noah Penda.
Bravo. Il y a, de designer, on y va.
Il y a de l'idée, ça bosse à RMC.
Il y a de la réflexion. Je ne suis pas au niveau de Maxime Reynaud en termes de cursus scolaire, mais on y va. Je suis une tête bien pensante aussi. Allez, c'est parti. On vous présente l'un des prospects les plus intéressants de sa génération.
RMC Basket Time, le profil du prospect.
Une petite carte d'identité avec toi, Félix. On y va.
Noah Penda, né en 2005, il a fêté ses 20 ans en janvier. On est sur un ailier fort de 2m03 et environ 110 kg. En taille, on est sur la norme des postes 3-4 de NBA. C'est la taille de Banchero, d'Aaron Gordon, de Jason Tatum, d'Anunobi et j'en passe. Son style de jeu, avant de rentrer dans les détails, c'est un poste 3-4 moderne, polyvalent et très complet. Une sorte d'homme à tout faire. Un joueur intelligent, altruiste et capable d'être impactant des deux côtés du terrain.
Si on rentre un peu plus en détail dans le style de jeu, Thomas, comment est-ce que tu décrirais Noah Penda?
Pour décrire rapidement son style de jeu, je dirais que c'est un joueur qui rend le jeu plus facile pour ses coéquipiers des deux côtés du terrain par ses qualités de passe, de défense, de rebond, mais également par son caractère. C'est un vrai joueur d'équipe qui contribue à la victoire. Commencer avec sa défense, c'est vraiment un joueur qui crée des événements défensifs, interceptions, contre. Il est toujours là, il a des super mains, il a vraiment une coordination œil-main très très intéressante pour des interceptions. Il est toujours gênant, il a un très très bon gabarit comme vous l'avez dit, il fait plus de 2 mètres, il fait sa bonne centaine de kilos, donc pour un joueur de 20 ans c'est vraiment très très impressionnant, et donc il pèse de ce côté-là du terrain, que ce soit en défense, au rebond, il a une très bonne polyvalence défensive, capable de défendre plus grand, plus petit grâce à sa mobilité, donc c'est vraiment très très intéressant, c'est un des meilleurs profils défensifs de cette UV.
T'es d'accord? C'est son point fort, la défense?
Complètement d'accord. Je rajouterais aussi l'agressivité et sa mentalité. Noah Penda, j'ai eu la chance là, de le croiser dernièrement à la finale de Coupe de France entre Le Mans et Paris. Finale remportée par Paris contre l'équipe de Noah Penda. Et en zone mixte, à la fin, j'ai vu un Noah Penda qui était abattu, qui était hyper énervé d'avoir perdu, du visage affiché par son équipe sur le parquet. Il a 20 ans, mais il a déjà la mentalité d'un vieux briscard, d'un guerrier, tu vois, d'un mec de 28 ans qui a roulé sa bosse. Franchement, ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup chez lui.
Je vais avancer un petit peu une question que j'avais préparée un petit peu plus tard. Du coup, est-ce que c'est pas peut-être le joueur le plus prêt en termes mentalement, tu le dis, sa capacité à réagir comme ça? Thomas, t'es d'accord avec ça?
Ouais, je pense que c'est peut-être le français le plus près cette année pour la draft, avec Maxime Reynaud, je pense également. C'est vraiment un joueur, déjà, rien que physiquement, avoir un joueur de 20 ans qui est aussi prêt physiquement, c'est vraiment très impressionnant. C'est que la défense, ça permet aux joueurs de rester sur le terrain en NBA également. Donc il pourra jouer déjà dès demain grâce à son physique, ses qualités défensives. Il a notamment une intelligence de jeu pour faire circuler la balle. Il va pas être négatif à son équipe de ce point de vue-là. Non, vraiment un joueur qui peut arriver et mettre un pied en NBA et jouer assez rapidement, je pense.
Et puis extrêmement complet quand même, Félix.
Ouais, c'est ça. Il a une polyvalence qui peut plaire à n'importe quelle franchise. Et une polyvalence qui est permise grâce à son physique. Et même en, en défense, il peut défendre sur, sur beaucoup de postes. Il est aussi, il a une faculté à être très utile au rebond. Et voilà, Thomas l'a dit au tout début, c'est un facilitateur, c'est une sorte de glue guy. Et ouais, et à 20 ans, on l'a dit, on a fait, on va faire des prospects, on en a fait dans, dans, dans ces épisodes spéciaux de Basket Time qui ont 18 ou 19 ans. Lui, voilà, il a eu 20 ans il y a 5 mois. Il a pris le temps avant de s'inscrire, il a retiré son nom l'année dernière. C'est un mec qui est prêt, qui sait où il va. Donc voilà, beaucoup de bons points pour Noah Penda.
Est-ce qu'il y a quand même des... j'irai peut-être pas jusqu'à point faible. Est-ce qu'il y a des axes d'amélioration, Thomas, chez Noah Penda?
Évidemment, je pense que le principal axe d'amélioration de son jeu, c'est son tir. Il a déjà bien commencé ces dernières années. Il a un volume qui a vraiment explosé depuis un ou deux ans. Il a beaucoup progressé sur sa réussite entre ces deux dernières années à Vichy et cette année du côté du Mans. On a un joueur qui est à 34% cette année à 3 points sur 3 tentatives par match en 27 minutes de temps de jeu, quasiment 70% en lancé, alors qu'il était assez faible de ce point de vue-là en N1 du côté du Pôle France ou du côté de Vichy. L'année dernière, Vichy par exemple était seulement à 26%, donc c'est un joueur qui était vraiment très intéressant. Si j'abuse un petit peu également des bords, il a très très bien shooté au U20 l'été dernier. Donc depuis l'été dernier, il est à 37% à 3 points, donc c'est vraiment très intéressant. Je trouve qu'il a une mécanique en progression, il tire de plus en plus vite, il est de plus en plus en confiance, et c'est vraiment primordial pour sa réussite en NBA. On voit actuellement avec les playoffs, je pense que tout le monde rate au moins des matchs de temps en temps. Jouer en NBA, c'est vraiment ultra important de savoir tirer. On a des défenses qui n'hésitent absolument plus à venir doubler les grosses stars, donc on a des tirs qui sont laissés ouverts par défaut, et bah faut être capable de sanctionner pour pouvoir rester sur le terrain le plus longtemps possible, aussi simple que ça. Donc Noah Penda devra continuer de progresser à 3 points pour rester sur le terrain NBA, pour montrer toutes ses autres qualités.
Est-ce qu'on a quand même pas un petit peu l'impression qu'il manque d'assurance dans ses choix, dans ses prises de décision? De moins en moins, évidemment, mais est-ce que ça peut pas être encore un axe d'amélioration pour lui?
D'assurance, pas spécialement, parce que c'est un mec qui est déjà travailleur et qui sait où il va et ce qu'il veut faire. Je rejoins Thomas pour dire qu'il faut qu'il bosse encore son tir à 3 points, parce que s'il veut durer en NBA, il faudra être un 3&D. Pour l'instant, il a le D. Et il faudra le sweep, quoi. Donc ça va dans le bon sens, mais voilà, c'est un truc, je pense, sur lequel les scouts sont plutôt attentifs. Je rajouterais peut-être, moi je parlerai pas du coup de problème d'agressivité ou de rien, mais au niveau de son handle et de sa création, peut-être que c'est pas un problème de mentalité, mais c'est un problème de le bosser. Je pense que pour l'instant, quand tu le regardes jouer avec Le Mans, il a pas les responsabilités offensives de première ou deuxième option, et il a pas hyper souvent la balle dans les mains. Et je pense qu'il peut progresser là-dessus, parce que même à partir de l'aile, ça peut être important en NBA de pouvoir créer, d'avoir un bout de handle.
Tu valides ça, le handle, Thomas?
Oui, je suis clairement d'accord avec Félix, c'est un des axes majeurs de progression. C'est un joueur qui dribble très très haut, il est très très droit quand il dribble, en fait. C'est pas du tout un joueur qui se pense, du coup il a du mal à manier le ballon, il dribble très très haut, c'est plus facile pour venir l'intercepter. Donc c'est vraiment un point d'amélioration, capable de mettre plus de nuances dans son dribble, capable de changer de rythme, et ça pourrait lui permettre de plus ouvrir son jeu. S'il arrive à mieux tirer, et ça va lui ouvrir déjà des espaces, et en plus s'il arrive à mieux poser la balle au sol, ça va ensuite permettre de mettre en avant sa vision de jeu qui est vraiment top top. Donc c'est vraiment un point important pour qu'il arrive mieux à trancher dans les espaces des défenses.
Et en termes de rapidité, est-ce qu'on est au top du top, ou est-ce qu'il pourrait faire un petit peu mieux, notre ami Noah Penda, selon toi, Félix?
C'est pas un dracter, hein. Enfin, c'est voilà, faut pas attendre de lui le type de joueur qu'il n'est pas. Il a déjà beaucoup de qualités, on les a listées. Non, c'est pas un poste 3, c'est pas un slasher. Voilà, si c'est pas un mec qui va pouvoir, bon, peut-être en fonction de son développement, mais pour l'instant, un mec qui va pouvoir attaquer le panier, etc., c'est pas ce type de joueur-là, pour l'instant en tout cas.
À qui est-ce qu'on pourrait le comparer en NBA, messieurs? Je commence avec toi, Thomas.
Alors moi, j'avais deux comparaisons à vous proposer. J'ai pensé à Jeremy Soran du côté des Spurs et du côté de Baylor avant NCAA, un peu dans ce mood de joueur vraiment intelligent, QI, bon passeur, assez polyvalent défenseur, un peu capable de faire tout, mais qui a des problèmes au tir. Je pense que Penda, par contre, est un peu plus avancé que Soran au niveau du tir en arrivant en NBA. Et sinon, j'ai une autre comparaison, mais ça, c'est vraiment pour les geeks. C'est Jalen Slauson, drafté l'année dernière par les Kings en 54, qui évolue du côté de la G League. Pour ceux qui ont pu un peu le suivre en NCAA du côté de Furman, il fait vraiment penser un peu à ce genre-là. Mais c'est un joueur qui est drafté à 24 ans. Penda, on a 4 de moins. Donc vraiment beaucoup plus de potentiel de ce point de vue-là. Mais c'est un peu les deux compas que j'ai trouvé dans ce moule délié. Très polyvalent, intéressant défensivement, avec un peu de manque de shoot.
Félix, tu le mets dans quel moule, toi?
Dans le moule d'un certain Nicolas Batum, pour aller jusqu'au bout de la comparaison avec un mec qui a été formé au Mans et qui a été drafté après avoir percé sous les couleurs du MSB. Et voilà, on l'a dit tout à l'heure, on a parlé de glue guy. La définition d'un glue guy français, c'est Nicolas Batum. Je pense que c'est ce qu'on peut lui souhaiter comme carrière, vu la longévité de Batum. Je m'étais aussi noté, il y a un petit côté aussi des frères Maurice. Markieff et Marcus Morris dans le côté. Il est peut-être encore meilleur défense. Enfin, il pourrait être meilleur défenseur qu'eux, mais dans ce côté, grand poste 3-4, pas forcément le plus mobile, mais tellement utile, tellement polyvalent. Il y a un peu de ça aussi, je trouve.
Thomas, ça veut dire que Noah Penda, on peut l'attendre à 35-36 ans en train de faire des saisons à 5-6 points, mais hyper importantes.
J'espère. S'il peut atteindre le développement de tir de Nico Batum, ça va devenir un sacré joueur, donc c'est tout le mal que je lui souhaite. C'est vraiment un joueur qui a beaucoup de qualité pour durer en NBA, comme on l'a dit, niveau défense, niveau QI, niveau vraiment polyvalence, capable de faire un peu ce que les autres n'ont pas forcément envie de faire. Donc s'il arrive à au moins progresser sur son tir, et en plus sur au niveau du dribble et de son agressivité sur drive et de l'attaque de close-out, ça peut vraiment être un joueur qui dure en NBA. Oui.
On continue de vous présenter Noah Penda dans cet épisode de Basket Time. Tout de suite, un mot de son expérience.
RMC Basket Time, le parcours du prospect.
Je le disais en début de podcast, Félix Noah Penda, il a quand même été convoité par pas mal de grosses écuries dernièrement. Est-ce que tu peux nous faire un point sur son parcours, s'il te plaît?
Alors Noah Penda, c'est d'abord un pur produit du Centre fédéral qu'il a rejoint en 2020. À 15 ans et des poussières, il joue ses premiers matchs avec le Centre fédéral en National 1, qui est le troisième échelon français. Il signe ensuite son premier contrat pro à Vichy-Clermont en Pro B en 2022, où il monte en puissance pendant deux saisons et tape dans l'œil du Mans, qui le fait signer l'été dernier en Betclic Elite. Il a fait une saison pleine du côté du MSB avec un rôle majeur chez le vainqueur de la Leaderscope et on l'a dit, le finaliste de la Coupe de France. Il a même été élu meilleur joueur de Betclic Elite devant Nolan Traoré, dont on a déjà parlé dans ses épisodes spéciaux sur les prospects. Il a succédé notamment en ce titre de meilleur joueur de Betclic Elite à Wembanyama et Zachary Risaché, pour vous poser le cadre. Il a également un joli palmarès en équipe de France jeune. Il a été champion d'Europe U20 en 2024, où il a même été élu dans le 5 majeur du tournoi, et vice-champion du monde U19 en 2023. Donc voilà, un parcours sacrément complet déjà pour Noah Penda.
Sacrément complet, et on peut aussi souligner qu'il a pris une année de plus que ses collègues de la génération 2005 pour se développer en France avant justement de tenter sa chance à la draft NBA. Il a déclaré, je cite, « Je pense que j'aurais été NBA ready l'année dernière, mais c'est surtout par rapport au rôle qu'on m'aurait accordé. J'aurais été au second tour, voire non drafté avec un two-way contract. Il fallait d'abord que je prouve en pro A. L'année dernière, j'étais capable, mais je n'avais pas encore prouvé à un vrai niveau. » Est-ce qu'il a fait le bon choix selon vous, Thomas?
Je pense que c'est un bon choix où il nous l'a prouvé. Ça lui a permis de prendre beaucoup d'expérience en jouant pas mal de minutes à un très bon niveau avec un vrai rôle et un entraîneur qui a à cœur depuis maintenant 3 ans de le faire développer. Il a attendu maintenant comme un premier tour, ce qui n'était pas du tout le cas l'année passée. Donc non, je pense que l'histoire nous montre que c'était vraiment une bonne décision de sa part. Et pour ajouter forcément un point au palmarès, je pense qu'il ne faut pas oublier le plus gros shoot, un des plus gros shoots du basket français qu'il a mis l'année dernière contre l'Espagne en quart de finale en Pologne, pour ensuite gagner la compétition en des moments marquants de ces dernières années.
Bien sûr, et ça marque évidemment les mémoires et les petits carnets des scouts. À mon avis, ça doit être gribouillé dans pas mal de petits carnets. T'es d'accord avec ça? Il a bien fait de faire ce choix-là, Félix?
Oui, il a fait un excellent choix, déjà de rester en Europe, et en plus, t'en as un petit peu parlé, de refuser des offres très lucratives chez des franchises d'Euroleague. On le voit ces dernières années, tous les prospects français, que ce soit Wembanyama, Koulibaly, Risaché, ils ont fait le choix de rester avec des équipes françaises qui ne jouaient pas l'Euroleague pour avoir un rôle majeur et un rôle clé. Lui, c'est clairement ce qu'il a fait au Mans, qui est une excellente équipe de Betclic Elite, mais où il peut en même temps avoir un rôle majeur. Et dans une jeune carrière comme ça, avoir un rôle majeur dans une équipe du Mans qui a été remportée de la Leaders Cup, qui a été en finale de la Coupe de France à Bercy, qui là va
faire... Soulignons quand même, pardon, je te coupe, qu'il ne jouait pas pour la finale de la Leaders Cup, si je ne m'abuse, parce qu'il était malade à ce moment-là.
Oui, mais en fait, il fait partie de l'effectif,
évidemment,
qui va.
Mais il ne jouait pas à ce moment-là.
Coupe de France, il était bien là, et ça bien a sûr. Été un des mecs qui a sonné la révolte du côté du MSB contre Paris. Paris qui est quand même une équipe d'Euroleague, donc voilà, faut y aller. Et là, il va jouer les playoffs de Betclic Elite avec encore de l'expérience à emmagasiner. Donc non, c'est un excellent choix.
Et encore des matchs pour prouver aux scouts ce qu'il vaut pour cette draft 2025. Tu parlais de l'Euroleague. Souvenez-vous, en 2020, Théo Malédon, il a été choisi en 34e position. Et Tony Parker, il avait allumé Zvezdan Mitrovic, le coach de l'ASVEL de l'époque, en disant qu'il l'avait tué et qu'il aurait dû être dans le top 10 s'il avait été mieux managé par Zvezdan Mitrovic à l'époque. Depuis, aucun des Français, tu l'as dit, qui ont été draftés n'ont joué en Euroleague. Est-ce que c'est incompatible maintenant, Thomas?
Je pense que c'est déjà de facto dur pour un prospect de jouer dans une équipe aussi forte à un niveau Euroleague. Je pense que ça demande vraiment un avancement énorme, on l'a vu. Le seul gros dernier exemple, c'était Luka Doncic, qui a su avoir un rôle immense dans une équipe du Real, dans une saison à 60 matchs faciles. Mais je pense que c'est pas complètement incompatible de jouer la Coupe d'Europe. On le voit rien que cette année avec un joueur comme Noah Zengue qui a déjà 50 matchs joués ou Penda n'a que 34-35, ou même un joueur comme Nolan Traoré en Champions League. Donc je pense qu'on peut jouer 2 matchs par semaine et rester efficace et montrer beaucoup de choses. Et ça permet d'avoir des échantillons plus importants pour montrer des progrès au niveau du tiers, etc. Donc je pense que ça peut être une bonne chose de jouer 2 fois par semaine.
T'es d'accord ou tu penses que c'est un petit peu compliqué d'enchaîner une grosse saison comme ça avant la NBA?
C'est dur parce qu'en fait en Euroleague t'as pas beaucoup de place pour t'exprimer, forcément les effectifs ils sont là.
C'est
et le
ça
but
qui a tué Théo Malédon,
ouais, ouais. Donc je sais pas si, comme le dit Tony Parker, il aurait été top 10, mais forcément ça n'a pas aidé à faire grimper sa cote auprès des scouts NBA. Et donc je pense que là ce que fait Noah Penda, ce qu'ont fait Rizaché, Wembanyama et tant d'autres avant lui ces dernières années, c'est parfait parce que t'as pas de pression, t'as pas trop la pression du résultat, mais t'es quand même dans une équipe compétitive qui est là pour gagner un petit peu de match sans avoir des déplacements à négocier et la pression, déplacements à négocier en Europe et la pression de devoir bien figurer en Euroleague.
L'été dernier, le Real Madrid et Monaco notamment lui offraient des ponts d'or par rapport à ce qui touche au Mans. Je pense que ce n'est pas une expression démesurée de dire que ça aurait été des ponts d'or. Mais il a fait le choix de suivre Guillaume Vizade, son coach à Vichy, en rejoignant le Mans avec lui, plus que l'attrait de l'argent. On a l'impression que c'est quand même le choix de la stabilité. Et encore une fois, peut-être comme on l'a évoqué avec Maxime Reynaud, une tête bien pensante, bien faite, bien sur les épaules, les pieds sur terre, Thomas ?
Ouais, c'est ça, c'est un coach qui a suivi le Cédure avec son projet à Vichy en Pro D2 il y a 2-3 ans de ça maintenant. C'est un coach qui l'a aussi coaché en équipe de France l'année dernière au 20, donc je pense que c'est quelqu'un avec qui il se sent vraiment bien, en qui il a confiance. Il sait qu'il a des garanties de jeu avec lui, qu'il est mis dans un bon système, dans des dispositions pour performer. Je pense que c'est très important de savoir se mettre en avant en arrivant en NBA. On sait par exemple du côté de la NCA, c'est vraiment très très important de commit dans une équipe intéressante qui va savoir nous mettre en avant. Il y a beaucoup de joueurs qui s'écroulent en choisissant une mauvaise fac. Donc non, je pense que c'était un très bon choix de Noah Penda de continuer dans une équipe où il était assez sûr de ses responsabilités.
Puis il faut dire que ça a profité quand même à cette équipe du Mans et aussi à Noah Penda parce qu'il a été nommé All-Star cette saison, nommé MVP aussi du Young Star Game, meilleur jeune joueur, tu l'as dit. Il a été responsabilisé énormément par son coach avec pas moins de 25 minutes par match. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa saison à Noah Penda au Mans? C'est peut-être réussite, mais encore un peu manque de constance, toujours du fait du jeune âge, Félix?
Même pas spécialement, moi ça m'a pas choqué l'absence de régularité, en tout cas moins que pour Nolan Traoré, un manque de régularité dont on a évoqué sur un premier épisode. Non, pour le coup, moi, sa saison, je trouve qu'elle est ultra solide. Lui-même, il l'a dit, il avait conscience de ses limites l'année dernière et qu'il aurait sûrement été drafté au second tour avec un two-way contract. Il a fait un très bon choix en restant ici. Et donc, on attend de voir évidemment ce qui va se passer le soir de la draft. Mais pour l'instant, les mock drafts montrent que son choix était tout à fait le bon. Là, maintenant, il est annoncé, on en reparlera, aux alentours de la 20e place, de la 20-25e place, en tout cas au premier tour avec un contrat garanti. Donc non, il y a franchement, je trouve qu'il n'y a aucun point noir à la saison de Noah Penda, qui a fait un excellent choix. On a beaucoup parlé de Maxime Reynaud au côté de la tête bien faite. Noah Penda, il n'a pas fait Stanford. Il a fait un autre choix qui est de rester du côté de la Sarthe. Ce n'est pas la Californie, mais voilà. Mais en tout cas, même sans Stanford, c'est un mec qui a vraiment la tête sur les épaules et ce qui va vraiment l'aider pour son acclimatation en NBA et son début de carrière.
Juste pour faire un point sur les stats, cette saison au Mans, c'est pas loin de 11 points, 5 rebonds, 3 passes, 45% au tir, 32% à 3 points. C'est quand même pas mal, en effet. Thomas, être aussi proche de son coach, entre guillemets, Guillaume Vizade, qu'il suit depuis si longtemps, qu'il a connu, je l'ai dit, à Vichy, mais aussi en équipe de France U20, est-ce qu'on ne peut pas craindre un problème d'adaptation, d'acclimatation de l'autre côté de l'Atlantique, sachant qu'il a toujours baigné dans une sorte de cocon avec ce même environnement depuis tant d'années ?
Forcément, ça va le changer. Il va découvrir des nouveaux coachs, des nouvelles personnes, une nouvelle langue, un nouveau pays, comme on le dit à chaque fois. Mais c'est le cas pour pas mal de joueurs. On sait qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de joueurs qui font le choix de rester dans leur état natal ou dans une fac ensuite de leur état natal également après la high school pour continuer d'être près de leurs proches. Ça rejoint un peu le même principe. Donc je pense, non, ça lui a permis de se mettre en avant. Maintenant, il va falloir faire le grand saut pour la NBA. Et voilà, comme tout le monde, il va falloir s'adapter. Comment il va réussir à faire cette transition, ça va être une grande question et ça va impacter sur sa réussite, mais je pense pas que ça le dessert plus que ça par rapport à d'autres.
Pas de crainte.
Non, ça m'inquiète pas non plus, parce qu'on l'a déjà fait comprendre, c'est un mec qui est très mature. C'est pas le cas de tous les jeunes joueurs qui se présentent à la draft. Lui, pour le coup, il a tout ce qu'il faut en magasin au niveau mental pour pouvoir s'acclimater, et je me fais pas de soucis pour lui du tout sur cet aspect.
Thomas, chez Envergure, vous le voyez être sélectionné à peu près en quelle position, Noah Penda, à cette draft?
J'ai regardé juste avant sur notre site, actuellement deux personnes l'ont mis sur leur board et donc on finit le visualiser. Ils l'ont 14 et 20e, je pense qu'on est dans ces eaux-là, je le vois bien partir à partir de la deuxième partie de loterie, à partir des places 10-11 jusqu'en top 20-25. C'est vraiment un joueur très intéressant qui continue de progresser au fil de la saison, a fait une vraie bonne saison au shoot par rapport à l'année passée. Il a encore quelques matchs contre Monaco en playoff potentiellement et même après si le moment arrive à passer les Monégasques. Donc ça peut être très intéressant de continuer à faire monter sa cote. Il sort de peut-être son meilleur match de la saison contre la Rochelle il y a quelques jours, il y a 2-3 jours au moment où on enregistre, avec 18 points, 13 rebonds, 8 passes, 3 blocs. Il venait de mettre 17 points également au début du mois contre Saint-Quentin, donc il est vraiment sur un bon rythme actuellement. Donc s'il continue de montrer des choses positives comme ça, ça peut vraiment être intéressant. Également pour les joueurs français qui sont également en compétition, et il n'a pas fait le combine la semaine passée, il va le faire du côté de Trévise, à côté de Venise, en Italie au début du mois de juin. Donc c'est là qu'il va pouvoir être mis dans le bain à côté des scouts, faire ses mensurations, etc. Et donc ça va pouvoir le permettre de faire les interviews avec les équipes NBA pour essayer de continuer de faire bonne impression.
Félix, on allume la télé aux alentours de la 20e place et il sera là?
Ouais, 20-25, j'ai envie de te dire. C'est dans ces ranges-là, ça peut beaucoup changer, évoluer, ça peut beaucoup bouger. Et en fonction des besoins de chaque équipe, voilà, tu peux avoir des fois des gaps de 5 places par rapport à ce qu'on attend, mais c'est pas le principal. Le principal, c'est d'être drafté au premier tour, d'avoir un contrat garanti, de pouvoir être sur le parquet fin octobre prochain pour faire ses preuves. Donc non, après, un peu à l'instar de Maxime Reynaud, bon, lui, il n'a pas 22 ans, il est un peu plus jeune, il aura 20 ans, l'année prochaine, il aura 21 ans, en fait, en plein milieu de la saison. Il ne fait pas partie des plus jeunes. Peut-être que ça peut un peu le desservir, parce qu'on l'a déjà dit dans ces podcasts sur les prospects, moins tu es jeune, moins forcément tu as de hype et d'engouement chez les scouts, parce qu'ils considèrent que tu es plus proche de ton plafond. Donc lui, peut-être, ça peut lui faire perdre quelques places. Mais en tout cas, je pense qu'il a tout mis en œuvre et qu'il a tout ce qu'il faut pour être drafté au premier tour et avoir un contrat garanti.
En tout cas, les différents mock drafts sont assez d'accord pour dire qu'il serait drafté entre 20 et 27. J'avoue que c'est extrêmement régulier du côté des différents mock drafts. ESPN le voit 28e, The Athletic 24e, The Ringer 24e, par exemple. Donc on est assez régulier du côté des différents mock drafts. Comme toujours, on va sortir la boule de cristal pour cette dernière question de l'épisode. Noah Penda, qui s'épanouirait en NBA tout de suite, ce serait dans quelle franchise selon vous? Félix, je te laisse démarrer.
Miami, pourquoi pas, qui pique en 20e place dans ce premier tour à la future draft.
Je t'avais dit qu'il fallait allumer la télé à la 20e.
Ouais, mais carrément, Miami, je trouve que ça fitterait pas mal pour son mental et sa dureté. Je trouve qu'il a vraiment un peu l'ADN du 8. Ça pourrait être pas mal, surtout qu'en plus le 8 qui va entamer une phase un peu de reconstruction. Ils vont pas reconstruire de zéro, mais voilà, ils ont besoin d'un peu de sang neuf, de reconstruire ce roster. Ou alors, pour aller jusqu'au bout de la comparaison avec Nicolas Batum, pourquoi pas les Clippers, qui piquent en 30e, dernière place de ce premier tour. Il aurait son contrat garanti. Il arriverait pour potentiellement la dernière saison de Nicolas Batum chez les Clippers. Il pourrait tranquillement être
sous l'aile du mentor.
Exactement, sous l'aile du mentor, biberonné à Nicolas Batum, qui va pouvoir lui montrer toutes les ficelles du parfait glue guy en NBA. Donc voilà, les Clippers, pourquoi pas.
Thomas, d'accord avec ça, et qui est-ce que tu as choisi comme franchise?
Alors de mon côté, je suis parti sur les Warriors, même s'ils sont pas de pick au premier tour, on sait, genre de la draft, ça part dans tous les sens, il y a des échanges qui se font, il y a des trades à chaque seconde, donc même s'ils ont pas de pick, c'est pas pour ça qu'ils peuvent pas drafter dans maintenant un mois. J'aime bien le fit Warriors, pourquoi? J'aime beaucoup sa capacité à jouer des écrans, son passing, sa capacité à potentiellement jouer sur du short roll, voilà, pose d'écran, et après prendre les décisions en 4 contre 3, ça peut vraiment être très intéressant. Également sa capacité à jouer sans ballon, c'est vraiment un joueur intéressant. J'aimerais bien le voir dans un environnement compétitif. C'est un joueur qui a la gagne en lui, un joueur qui est prêt à apporter assez rapidement. Donc j'aimerais bien le voir aux Warriors. Sinon, personnellement, je suis fan des Suns, un peu déprimé récemment. Donc on a le pick 29, je peux voir.
Aux Warriors, il faudra mettre ses 3 points par contre. Noah Penda, il n'aura pas le choix.
Ouais, aux Suns aussi. Je pense que de toute façon, peu importe où il va atterrir, il va falloir qu'il en mette des 3 points. En tout cas, vous m'avez hypé, messieurs, pour Noah Penda. L'aventure, elle commencera pour lui le 25 juin prochain. Pour combien de temps et dans quel contexte? L'avenir nous le dira. En attendant, allez écouter les autres épisodes de Basket Time. Abonnez-vous, laissez des commentaires, c'est très important pour nous. Et n'hésitez pas aussi à aller voir le travail d'Envergure. Je vous mettrai évidemment toutes les informations en description. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et vous présenter une nouvelle pépite du basket français.
RMC Basket Time.